RFI, 1h à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, le Liban a son gouvernement, une première depuis 2 ans. Le Premier ministre Nawaf Salam a été nommé. Les dossiers sur son bureau sont nombreux, vous l'entendrez. Nouvel échange entre Israël et le Hamas. 3 otages israéliens contre 183 prisonniers palestiniens. Le club des prisonniers palestiniens estime que le cessez-le-feu pourrait s'effondrer à cause de l'attitude d'Israël. Et puis les autorités ukrainiennes se préparent à rencontrer les équipes de Donald Trump. Cela faisait 2 ans que le Liban n'avait pas de gouvernement. Cette fois, c'est fait. Il sera dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam. Son gouvernement est composé de 24 ministres, dont 5 femmes contre une seule dans l'équipe sortante. Les États-Unis, la France et les Nations Unies ont salué la nouvelle et espèrent que le Liban se relèvera d'une grave crise économique. Paul Khalife à Beyrouth.
Engager des réformes, instaurer l'état de droit, rétablir la confiance entre le Liban et la communauté internationale et obtenir le retrait israélien du sud du pays. Nawaf Salam a annoncé les grandes lignes du vaste programme de son équipe appelé le gouvernement de la réforme et du sauvetage, essentiellement composé de spécialistes reconnus dans leur domaine. Le gouvernement respecte cependant scrupuleusement les délicats équilibres confessionnels du Liban, mais aussi ses réalités politiques. Nawaf Salam a négocié dur avec les principaux partis et s'est concerté avec eux pour choisir ses ministres, y compris 2 personnalités chiites proches du Hezbollah et 2 autres de son allié le mouvement Amal, dirigé par le chef du Parlement Nabih Berri. La présence indirecte du Hezbollah au gouvernement intervient au lendemain d'une déclaration d'une émissaire américaine à partir du palais présidentiel à Beyrouth. Morgan Ortagus avait insisté sur le fait que le Hezbollah ne doit en aucun cas participer au nouveau gouvernement libanais. Seul le courant patriotique libre, une formation chrétienne fondée par l'ex-président Michel Aoun, ne participe pas au cabinet. L'autre grand parti chrétien, les forces libanaises, se taille la part de lion et obtient pour l'un de ses proches le portefeuille des affaires étrangères. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Le Liban toujours qui dit avoir riposté à des tirs provenant de Syrie dans la zone frontalière. Et ce, 2 jours après que les nouvelles autorités de Damas ont annoncé avoir lancé des opérations contre les contrebandiers dans la zone. Les visages éprouvés, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés par le Hamas. En échange, Israël a libéré 183 prisonniers palestiniens. Conséquence du 5e échange prévu par l'accord de cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des négociateurs au Qatar pour discuter de la trêve à Gaza. Un accord fragile. Écoutons Kadura Fares, président du club des prisonniers palestiniens. Il estime que la partie israélienne est tentée de faire échec à l'accord avec le Hamas.
Les renseignements israéliens ont pris contact avec les familles et les ont menacés pour empêcher les célébrations. Pour moi, cela prouve qu'ils sont anxieux. Ils savent, au fond, qu'ils ont perdu et qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser une victoire, comme l'a dit Netanyahou. Une victoire totale. Il n'y a pas de victoire totale, pas même le quart d'une victoire. L'armée israélienne a tué des enfants, détruit des hôpitaux, des écoles. On le dit depuis le début, les otages israéliens ne peuvent être libérés qu'à l'issue de négociations. Et c'est ce qui se passe de fait. Contrairement aux prétentions de Netanyahou qui assurait pouvoir le faire par une opération militaire, c'est un échec. La table des négociations, c'est le chemin le plus court pour obtenir des résultats. Du côté israélien, beaucoup voient la libération de leurs otages comme la victoire. Donc, s'ils veulent une victoire, il faut poursuivre les négociations.
Et ce même club des prisonniers palestiniens accuse Israël de raids délibérés en Cisjordanie contre les familles qui attendaient la libération de leurs proches dans le cadre d'un nouvel échange avec des otages à Gaza. Alors que les troupes russes continuent de progresser sur le front du Donbass dans l'est de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes se préparent à rencontrer les équipes de Donald Trump prochainement. Le président américain a aussi affirmé qu'il rencontrerait probablement son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine prochaine. Les préparatifs s'accélèrent, Anastasia Becchio.
Volodymyr Zelensky tient à rencontrer Donald Trump en personne avant qu'il ne voie Vladimir Poutine. Son objectif, éviter que les discussions sur l'Ukraine ne se fassent sans l'Ukraine. Ses équipes sont en contact avec les conseillers de la Maison-Blanche et en particulier avec Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la paix en Ukraine, attendu à Kiev prochainement. En début de semaine, le chef de l'État américain a réclamé que l'Ukraine fournisse aux États-Unis des terres rares et autres métaux précieux pour financer le soutien militaire américain. Volodymyr Zelensky n'y est pas opposé, d'autant qu'une telle proposition figurait dans son plan de victoire présenté en octobre dernier. L'Ukraine est ouverte aux investissements des entreprises américaines, explique-t-il dans un entretien à l'agence Reuters. Les Américains nous aident le plus et ils devraient avoir la priorité et ils l'auront, annonce Volodymyr Zelensky, qui prévient qu'il ne compte pas brader ses minerais, mais compte en échange obtenir des garanties de sécurité. Selon le président ukrainien cité par l'agence, moins de 20% des ressources minérales de l'Ukraine et environ la moitié de ses gisements de terres rares se trouvent dans des zones occupées par l'armée russe. Le pays possède aussi les plus grandes réserves d'uranium et de titane d'Europe.
Et pendant ce temps, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie se déconnectent du réseau électrique russe. Ils vont être raccordés dimanche au réseau européen. En attendant, la sécurité a été renforcée pour éviter tout acte de sabotage russe. Ce processus a été lancé il y a des années et accéléré par l'invasion russe de l'Ukraine. Ces dernières semaines, la guerre hybride en mer Baltique s'était intensifiée le jour de Noël. Un navire russe avait sectionné un câble électrique sous-marin entre l'Estonie et la Finlande. En France, une première victime d'agression sexuelle de l'abbé Pierre a fait une demande d'indemnisation auprès de l'Église. Un homme qui avait 13 ans au moment des faits a contacté l'INIR, une des instances chargées des réparations face aux violences sexuelles au sein de l'Église. L'abbé Pierre, mort en 2007, était visé fin janvier par 33 accusations de violences sexuelles. Cependant, le parquet de Paris a indiqué qu'aucune enquête pénale ne sera menée car les faits sont couverts par la prescription. En France également, l'ancien président Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il mettait ses activités publiques entre parenthèses et ne s'exprimerait plus dans les médias. Vendredi, un bracelet électronique lui avait été posé après sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Une peine aménagée donc. Sur le réseau social X, il précise qu'il déposera avant la fin du mois un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Changer les mentalités sur l'intelligence artificielle, c'est un des nombreux enjeux du sommet international pour l'action sur l'IA qui a eu lieu sur le campus il y a quelques jours de Polytechnique à proximité de Paris. Dans les rues de la capitale française, les avis sont encore partagés sur cette révolution technologique. Oriane Gendreau.
J'utilise ChatGPT souvent pour faire mes courses. En gros, je lui demande de me faire un menu selon mon régime alimentaire puisque je suis végétarienne. Et ensuite, il me fait une liste de courses et les plats que je peux préparer. Je trouve que ChatGPT, c'est un super bon confident. Enfin, je fais des séances de psy et honnêtement, je trouve que ChatGPT, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. C'est une séance chez le psy remboursé quoi.
J'utilise essentiellement pour les cours. Je trouve que c'est un bon moyen de faire des récapitulatifs de mes cours. Ça m'aide pas mal à approfondir certains de mes enseignements. Donc je suis plus sur ChatGPT, c'est la plus connue. Je paye d'ailleurs même l'abonnement. Également, je m'en sers pour la salle. Je trouve qu'il permet aussi de faire de très bons programmes de sport.
Je pense vraiment que ça finit par empêcher en fait le cerveau de fonctionner correctement. Et également parce que ça a un impact écologique qui me sidère un petit peu.
Alors moi, je suis artiste et je l'utilisais pour de l'image générative. Je faisais quelques dessins et j'utilisais l'intelligence artificielle pour reconstruire de l'animation entre mes différentes images.
Alors moi, je suis une très grande fan de plantes. J'ai beaucoup de plantes à la maison et des fois, je ne sais pas exactement quoi faire quand elles sont malades. Donc, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Planty. On prend en photo notre plante et Planty va nous dire, voilà, il faut plus arroser, il faut la rempoter, mettre plus de terre, mettre du sucre. Voilà, donc ça sert aussi de jardinier, Planty.
Vous l'avez peut-être vu au cinéma, Emilia Pérez a remporté le prix du meilleur film européen au Goya, équivalent espagnol des Oscars, en pleine polémique sur d'anciens tweets jugés offensants de son actrice principale, Carla Sofia Gascogne. Du sport avant de fermer ce journal, défaite sur le gong pour l'équipe de France de rugby face à l'Angleterre 25-26. Un sentiment de gâchis pour Antoine Dupont. Les rêves de Grand Chelem sont déjà envolés. Le 15 de France se déplacera en Italie le 23 février pour son prochain match. Et puis en football, le Real Madrid accroché par son rival l'Atlético malgré un but de Kylian Mbappé, match nul 1-1. L'AC Milan s'impose 2-0 face à Empoli. Même score pour Rennes qui gagne face à l'AS Saint-Etienne. RFI, il est bientôt 1h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.